La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Esprit libre à 8h41 sur Radio Classique avec Cécile Cornudet des Échos. Bonjour Cécile.
Bonjour David.
Et Jean-Marie Colombani, fondateur de Slate.fr et ancien directeur du Monde. Jean-Marie, bienvenue.
Bonjour David.
Ce matin, dans l'actualité, vous avez les sages avec la décision du Conseil constitutionnel et puis les révoltés avec les agriculteurs en colère. Vous avez les hautes sphères du droit et puis le plancher des vaches. Je l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien la formule. On va commencer néanmoins par cette crise agricole qui oblige Gabriel Attal à être efficace, convaincant et à l'être tout de suite. Alors, il y a quelque chose qu'on lit dans les gros titres de la presse, et je m'en suis rendu compte en écoutant Hervé Gattegnaud, c'est comment calmer les agriculteurs. Comme si on avait affaire à une bande de dingues et qu'il fallait leur faire une petite piqûre de calmant pour qu'ils rentrent à la maison ou qu'ils retournent à la ferme. Le sujet, c'est pas ça, en fait. Est-ce que le sujet, c'est comment trouver une politique agricole qui permette de rendre la France souveraine, de rémunérer au juste prix les agriculteurs, de leur permettre de leur faire leur travail.
Ben, je pense que c'était l'idée.
Ça. Il faut les calmer ou faire de la politique.
Je pense que c'était l'idée de trouver un nouveau modèle agricole et que cette colère, parce que c'est quand même une colère, et la nécessité de la calmer politiquement, parce que sinon la seconde partie du quinquennat d'Emmanuel Macron avec le nouveau gouvernement Attal est fichu, va abîmer cette idée politique de trouver un nouveau modèle. Pourquoi ? Parce que on voit bien que ce que soulèvent les agriculteurs, c'est des totems macroniens. C'est un, plus d'argent, or les caisses sont vides. Donc jusqu'où ils vont obtenir plus d'argent et jusqu'où le règlement de la situation va susciter d'autres revendications. Moins d'Europe, ça pour Emmanuel Macron, c'est impossible. Donc on sent qu'ils sont dans une défense de l'Europe très forte et moins d'écologie parce qu'il y a quand même ce conflit qui ressurgit. Et là-dessus, on a vu Gabriel Attal avoir une charge très lourde contre les écologistes qui n'arrêtent pas de dénigrer les agriculteurs. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est que pour calmer cette colère, le gouvernement va être obligé de trouver des solutions qui touchent à ce à quoi il croit le plus profondément, et je pense en partie au modèle agricole écologique qu'il voulait mettre en place, et là forcément va y avoir un bond en arrière.
Jean-Marie Colombani, j'aurais quand même...
Je reviens juste d'un mot sur votre question initiale. Pourquoi calmer ? Parce que précisément, tout le monde la hantise d'un mouvement qui finisse par ressembler à celui des Gilets jaunes, et que donc on a peur que cette colère dégénère. Et les services qui sont chargés de sculpter un peu la population française pensent que plus on attend dans l'énoncé des solutions, plus c'est dangereux et plus on laisse du temps à la radicalisation ou aux extrêmes de s'installer. Donc c'est pour ça que l'obsession est en effet de calmer dans un pays qui, faut-il le rappeler, a pour tradition des révoltes régulières du monde paysan et a pour tradition une très grande indulgence. On peut s'amuser d'ailleurs à regarder dans l'histoire dans l'histoire de la Ve République, la tolérance qui est faite aux démonstrations de force ou même aux violences paysannes. Comme s'ils avaient chaque année leur quota de sous-préfecture ou de préfecture susceptible d'être menacés ou enflammés ou presque avec des pneus qu'on leur met devant les portes des préfectures, ainsi de suite. Il y a une grande tolérance vis-à-vis de cela.
Comment vous l'expliquez, cette tolérance ?
Je l'explique parce que la France pense que... tous les Français pensent qu'ils ont des origines rurales, qu'ils ont des origines paysannes, d'une part. D'autre part, tout le monde sait que l'on est nourri par cette population paysanne. Donc, on a un regard sur cet ensemble-là qui est amical, qui est convivial aussi. Donc, c'est vrai aussi des pêcheurs. Rappelez-vous les incidents ou les drames qu'il y a eu en Bretagne avec les pêcheurs. Il y a eu des dégâts considérables. Vous n'avez pas, par rapport au maintien de l'ordre, la même attitude que vis-à-vis d'autres manifestants. Donc ça, c'est pour le calmer. Pour le reste, par rapport à ce que vient de dire Cécile, je pense qu'on est dans la première épreuve de force entre la nécessité d'une transition écologique et la vie de certains, de pans entiers de l'activité. Et que ce passage, cette installation de la transition écologique ne se fera pas sans heurts, sans drames, sans mal. Et que il faut avoir conscience de cela. Là, on est vraiment dans la première grand affrontement avec l'écologie comme cible. Car c'est la cible.
Enfin, quand on parle de normes, c'est l'écologie.
Oui, d'accord. Mais l'écologie vue par l'Union européenne, l'écologie vue par les modernes, l'entretien des campagnes, la régulation, la régulation des animaux, c'est aussi de l'écologie.
Bien sûr, mais sur l'Union...
S'occuper des haies, des routes, du paysage, c'est aussi de l'écologie.
Oui, on pense aussi que les paysans sont les premiers organisateurs de notre paysage, mais en même temps les victimes de... Alors qu'il s'agisse de normes, bien sûr, mais la mise en cause de l'Union européenne est totalement absurde, parce que c'est pour le monde paysan une façon de scier la branche sur laquelle il est assis. Il vient d'y avoir le Brexit, on sait ce que ça donne, l'éloignement des normes européennes, même si ces normes sont abusives ou sont ceci ou cela. Il y a, je veux dire, la politique agricole commune a permis la modernisation de l'agriculture en France. Et il faut se souvenir, parce qu'on dit trop de libre-échange via l'Europe, mais regardez nos chiffres. La France est en déficit, en dette énorme. La France est en déficit permanent, sauf sur un point, sauf sur un domaine, le domaine agricole, agroalimentaire. Et là, nous sommes excédentaires de 10 milliards d'euros. Donc si on freine le libre-échange en question, on va freiner aussi nos exportations, donc on va mettre à mal des pans entiers de la vie agricole du pays. C'est ça qu'il faut voir, donc il faut arrêter avec les slogans anti-ceci, anti-cela. Je veux dire, c'est dangereux pour nous, collectivement.
Cécile Cornudet, il semble qu'une méthode pour gérer ce conflit et aboutir peut-être à un accord se dégage depuis lundi dernier. J'aimerais que vous nous en rappeliez les étapes. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en 5 jours.
Le problème, c'est que c'est parti de la base. Et on sait depuis les Gilets jaunes que quand ça part de la base et qu'il n'y a pas d'interlocuteur, c'est ingérable. Donc le gouvernement, quand il voit que ça part de la base, il se dit « je vais m'appuyer sur les syndicats agricoles, la FNSEA ». FNSEA, il y a toujours eu plus de liens avec le syndicat agricole qu'avec les autres. Mais c'est vrai que pour le gouvernement, on se souvient, pendant les retraites, c'était très critique sur Laurent Berger. Là, on les a mis en scène. On leur a demandé, eux et les jeunes agriculteurs, de reprendre en main le mouvement et de présenter un cahier de revendications pour qu'il y ait un interlocuteur. Mais on voit que c'est très, très fragile, parce que c'est vrai que du coup, la FNSEA a embrayé. Elle-même a dit à ses fédérations départementales « rentrez dans le mouvement, alimentez vos troupes, grognez ». Et là, maintenant, on est juste à un moment où cette grogne est tellement forte, ça a tellement bien marché, si je puis dire, que la question c'est est-ce que c'est rattrapable ? Quand on voit que Paris, maintenant, est visé, et que surtout quand vous écoutez certains agriculteurs sur leurs tracteurs dans les blocages, vous vous dites oulala, il faut que Gabriel Attal cet après-midi présente des mesures sacrément fortes pour qu'il rentre dans le rang. Mais je pense que le gouvernement n'avait pas d'autre choix que de s'appuyer sur la FNSEA, parce qu'au moins ils ont un interlocuteur, il y a un cahier de revendications et ils vont essayer d'y répondre au maximum.
On est là, Cécile, dans un autre niveau de difficulté que la gestion de la baïa à la rentrée scolaire du mois de septembre, où Gabriel Attal avait manifesté un sens du tempo et de la propos tout à fait,
c'est lui qui l'avait,
tout à fait efficace.
Il était maître de l'horloge.
Il était maître de l'horloge
là,
et du calendrier.
Complètement dépendant. On est dans ce drôle de moment où le président vient de nommer son nouveau gouvernement et où la semaine prochaine est la déclaration de politique générale où Gabriel Attal doit dire ce qu'il va faire et s'affirmer. Ils ont fait le choix exceptionnel d'avoir 15 jours, 3 semaines entre les deux dates pour que Gabriel Attal ait le temps de s'installer, de montrer sa méthode, etc. Et paf, au milieu, arrive ce mouvement des agriculteurs qui a complètement fait zapper cette période méthode, je me mets en scène pour préparer ma déclaration de politique générale.
Qui devait être aussi une rampe de lancement de la force macroniste pour les européennes. Tout cela faisait partie d'un scénario à 6 mois.
Voilà, et donc là, tout est torpillé. Et c'est vrai que s'il n'arrive pas à régler ce week-end, si lundi prochain, il y a encore beaucoup de blocages, à la veille de sa déclaration de politique générale, ça va être très très compliqué pour lui.
Je m'adresse à celui qui connaît la Ve République comme sa poche, qui en a vu d'autres depuis des années. Pardonnez-moi de mettre en lumière votre expérience, Jean-Marie. Des crises politiques, les exécutifs en ont vu d'autres, notamment avec les agriculteurs. Du haut de votre expérience, Jean-Marie, quelle peut être la parade efficace, la réponse plutôt que la parade, la réponse efficace d'un gouvernement qui se soucierait du bien-être, des revendications, et elles sont très nombreuses, des agriculteurs, et qui en même temps pourrait être une mise en cohérence des contraintes que vous avez énoncées tout à l'heure, écologie d'un côté et puis aménagement du territoire, avoir respect de la ruralité, etc., etc.
C'est une question extrêmement difficile.
C'est pour ça que je vous la pose.
Il faudrait que je me substitue à l'actuel ministre de l'Agriculture, qui a d'ailleurs avait travaillé un texte qui allait exactement dans le sens que vous indiquez. Je veux dire, le texte préparé par le ministre Fesneau était, de ce point de vue-là,
c'est Élisabeth Borne qui a chanté toutes les mesures concernant les normes écologiques.
Voilà. Et donc, on est dans ce moment-là. Mais c'est vrai que ce que disait Cécile tout à l'heure sur le syndicat et sur la FNSEA, qui à un temps était même... on pouvait dire d'ailleurs de la FNSEA que c'était un des courants du RPR à une époque, avec d'ailleurs les présidents de FNSEA qui devenaient ministres de l'Agriculture.
C'est arrivé plusieurs fois.
Et on est là dans un secteur qui est en effet co-géré entre l'État et le syndicalisme agricole. Simplement, le pays est traversé aujourd'hui par toutes ces angoisses et tous ces problèmes, et c'est très très difficile de satisfaire à toutes les demandes. Maintenant, je pense que dans le secret de l'élaboration des réponses de Gabriel Attal, il y a nécessairement pointé ou accepté toute une série de ce qui relève du cahier de revendication.
Ça va tellement vite, Jean-Marie, que la réponse... Il n'y a même pas eu un étage ministre de l'Agriculture et un deuxième étage Premier ministre. On est passé directement à l'étage du Premier ministre.
Et ça nous ramène à la fatalité de ce quinquennat, et le deuxième quinquennat commence à ressembler au premier. Le président est là pour gérer les crises. Et donc c'est le président des crises successives. On n'avait pas eu encore de crise agricole, on en a une. À laquelle il faut ajouter les pêcheurs aussi, parce que les pêcheurs... Il y a des tas de choses d'ailleurs qui sont... je suis interdit de pêche ici, pourquoi les Espagnols ne le sont pas, etc. Donc il y a beaucoup de mesures quand même qui peuvent être prises rapidement sur le carburant, sur tout.
Oui, mais le carburant, ça va coûter de l'argent, et deux, le signal écologique va être mauvais. Donc c'est ça qui est difficile.
Encore une fois, pour moi, on est là vraiment dans le premier affrontement premier choc entre la nécessité de la transition
écologique. Non, le premier, c'est les gilets jaunes. C'était la taxe carbone.
Oui, d'accord, mais enfin, en formalisation des choses, on a là vraiment le mur de l'écologie qu'il va falloir affronter et la survie d'un certain nombre de secteurs.
Pas de manifestants devant le Conseil constitutionnel. Les Français ne se sont pas rendus en masse pour contester les décisions du Conseil constitutionnel. Est-ce que ça veut dire que on n'entendra plus parler d'immigration au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat dans les mois qui viennent, puisque le président va probablement, selon les analystes, promulguer cette loi, même amputée des 40% de valeur ajoutée, si j'ose dire, des Républicains. Ça veut dire que c'est la dernière loi immigration de ce quinquennat-là.
C'est ce qu'a dit Gérald Darmanin. C'était le but de la manœuvre, de demander d'une certaine façon au Conseil constitutionnel de trancher ce différent avec LR. Il y a juste, pour répondre à votre question, la question de l'aide médicale d'État. Elisabeth Borne s'était engagée à légiférer dessus, ou au moins à réduire le panier de soins. Et quand il est arrivé, Gabriel Attal a dit à l'Assemblée nationale « Oui, je me sens redevable de cet engagement. » Mais quand, comment, ce sera juste là-dessus. Et sinon, plus de texte sur l'immigration, au moins un souci derrière. Juste LR va essayer, et le RN, de constamment remettre le sujet sur la table, mais LR sort très affaibli de la séquence.
Cécile, où sont les bleus? Où sont les blessures de cette séquence politique qui n'a pas duré que le temps des vacances de Noël et des semaines qui ont précédé? Ça fait un an et demi qu'on parle de loi immigration, ça fait un an et demi que ça manœuvre, que ça consulte, que Gérald Darmanin était très sûr de lui, les méchants, les gentils, etc., etc., pour arriver à ça.
Moi, je trouve que les bleus, ce sont peut-être l'opinion, les Français, qui attendaient des mesures très fortes. Et on leur a fait croire qu'elles étaient votées, et finalement elles sont censurées. Et j'espère que non, l'État de droit, en faisant porter sur le Conseil constitutionnel le rôle du méchant, celui qui tacle les mauvaises mesures trop dures, et bien du coup, ce sentiment que c'est lui qui bloque le Conseil constitutionnel peut prospérer dans l'opinion, et ça, je trouve ça dangereux.
Le mot de la fin à Jean-Marie Colombani.
C'est toujours le cas, hein, le Conseil constitutionnel. Quand il prend une décision, il mécontente évidemment toute une partie de l'opinion. Mais c'est vrai que là, il y a un vrai problème d'opinion pour le gouvernement. Comment faire admettre l'idée que ce qui reste du texte, ce qui est promulgué, est en soi suffisant pour influencer les flux ou la maîtrise des flux de l'immigration? Ça, c'est capital pour le gouvernement, parce qu'on risque d'avoir l'impression inverse. Et du fait que on dit toutes les mesures dures ont été annulées par le Conseil constitutionnel. Donc, que reste reste-t-il que des mesures molles? Non, il faut que le gouvernement fasse la preuve concrètement qu'il a aujourd'hui, malgré cette censure, un texte qui lui permet d'avancer sur le terrain de la maîtrise des flux migratoires.
Mes amis, merci. Jean-Marie Colombani, à demain 8h pour l'émission Commentaire avec Jean-Claude Casanova et Cécile Cornudet qu'on lit chaque jour dans Les Échos. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à la semaine prochaine. On va se quitter avec le début de la symphonie pastorale de Beethoven pour une ruralité, apaisée. Voilà. C'est tout ce qu'on se souhaite et qu'on souhaite aux agriculteurs et aux Français. Radio Classique, il est 8h56. Un peu de Beethoven quand même avant de se quitter.